don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的穆里达家正忙着
做事情。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50 en direct du studio 108 de la Maison de la Radio. Une émission préparée ce matin par Xavier Martinet, mais aussi Clément Salazar, Tiphaine de Rocchini, Audrey Rameau, réalisée par Charles Le Gargasson. Et mise en onde ce matin par Alexandre Dang. On va poursuivre notre série consacrée aux prisons. On le disait lundi, les États-Unis ont connu une explosion de la population carcérale sans précédent, plus de 800% depuis les années 80. Pour y répondre, il a fallu construire des prisons, embaucher du personnel pénitentiaire. Aujourd'hui, le complexe carcéral emploie directement plus de 800 000 personnes, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de l'industrie automobile. Le budget fédéral s'élève, lui, à 80 milliards de dollars. Il n'en faut pas plus pour comprendre qu'aujourd'hui, le secteur est devenu un poids lourd de l'économie américaine. La prison est devenue aux États-Unis une affaire de business.
Private prisons are an extension of the capitalist dream.
Les prisons privées sont la prolongation du rêve capitaliste qui entend tout exploiter, exploiter la main-d'œuvre au même titre que la machine de guerre.
It's also important to know.
Il est important de savoir que lorsqu'une récession nous frappe, comme celle qui vient de frapper l'Amérique et le Colorado, quand on a une industrie telle que celle des prisons, ces emplois-là ne risquent pas d'être perdus. On ne va pas rendre leur liberté aux prisonniers pendant une récession.
Lorsque les gens vous entendent dire que les prisons privées ont pour objectif d'augmenter le nombre de personnes emprisonnées, ils disent « Je ne peux pas y croire ».
D'une industrie qui tire ses revenus de corps emprisonnés, comment leur mission pourrait en être autrement ?
Extrait du documentaire Prison Valley de Philippe Brault et David Dufresne. Dans les prisons américaines, comme dans tous les secteurs de l'économie, les entreprises privées ont fait leur apparition. Si nombre de prisons américaines sont publiques, certaines sont tombées dans l'escarcelle du privé. Ces prisons privées ont surtout connu une forte expansion à partir des années 90, une croissance exponentielle dans les années 2000, plus de 700 prisons, plus de 500% de profits depuis ces 15 dernières années environ. Le durcissement législatif, l'immigration ou encore la menace terroriste sont autant d'éléments venus renforcer le compte un genre de prisonniers, la demande de bâtiments et pour des coûts toujours plus compétitifs. Alors dans quelle mesure la recherche de profit peut-elle peser sur la politique carcérale ? Dans quelle mesure est-ce qu'elle favorise la politique d'enfermement ? Et puis plus largement, comment s'organise ce business des prisons ? Qui en sont les acteurs ? Quelle différence avec les prisons publiques, notamment en matière de violence et de respect des droits de l'homme ? La privatisation va-t-elle mécaniquement avec une détérioration des conditions de détention ? Quelle est l'influence aussi des lobbyistes du secteur ? Comment les responsables politiques y résistent-ils ? Voilà un certain nombre de questions qu'on va aborder ce matin. Et puis en Europe, sans être aussi poussée, la privatisation du système pénitentiaire est aussi une réalité en France, mais aussi en Suisse. On en parlera tout à l'heure avec le spécialiste du système pénitentiaire suisse, Benjamin Breger. Et puis on fera un tour du côté des Pays-Bas qui se sont lancés depuis quelques années maintenant dans la location d'espaces carcéraux. Ce sera le politologue Laurent Chambon qui nous répondra tout à l'heure depuis Amsterdam. Mais d'abord, pour évoquer ces questions et ce contexte américain, nous avons invité un professeur de civilisation américaine à l'université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle. James Cohen, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis on aura également dans quelques instants, depuis Genève, Nathalie Berger, la coordinatrice États-Unis pour Amnesty International France, une spécialiste du système carcéral américain. Juste le temps d'établir la liaison justement avec Genève. James Cohen, alors quand on regarde un peu la part des prisons privées dans l'ensemble du paysage américain, on se rend compte que c'est à peu près 8% de la population carcérale totale. Est-ce qu'on sait, James Cohen, depuis quand les États-Unis recourent finalement au privé, aux prisons privées dans la gestion de son système carcéral ? À quand est-ce qu'il faut remonter pour voir l'émergence de cette idée d'une prison privée ?
Excellente question. Je pense qu'il faut remonter aux années 80. Je n'ai pas la réponse précise à la question, mais j'ai dans les documents devant moi, j'ai trouvé des traces très très claires de l'existence d'un lobby qui poussait pour l'expansion de ce secteur dès 2001, dès le 11 septembre, parce qu'on trouvait que c'était une opportunité de pouvoir enfermer des personnes soupçonnées de terrorisme et d'origine moyen-orientale. C'était dit explicitement dans des documents officiels. Des documents émanant de ce secteur qui est dominé par deux grands groupes, comme on le sait, le groupe GEO, et puis Corrections Corporations of America, CCA.
Qui est le premier acteur pionnier en la matière et le premier acteur en termes de chiffre d'affaires, en tout cas.
On peut préciser un petit peu, parce que vous disiez, et ça correspond à peu près à mes calculs, que ça représente peut-être 8% des détenus à l'échelle nationale, mais j'ai vu des chiffres plus précis qui indiquent que 6% des détenus des 50 États fédérés, entre 16 et 20% des détenus du secteur fédéral, et puis à peu près la moitié des migrants détenus à tout moment donné qui sont en attente d'une audience et d'expulsion le plus souvent. Donc ça fait un marché puisque ça devient un marché énorme.
Évidemment, il y a des voix qui s'élèvent contre l'émergence de ce marché, notamment celle d'une militante des droits civiques connue, membre des Black Panthers, Angela Davis, qui parle d'un complexe carcéro-industriel. Écoutez-la.
Nous devons toujours être conscients de ceci, qu'avec ce renouvellement du paysage des opérateurs militaires, nous voyons de nouveau un ensemble de mauvais présages fusionnés comme une menace nucléaire. Et nous voyons maintenant apparaître une relation de plus en plus explicite entre le complexe militaro-industriel et le complexe carcéro-industriel. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes gens de couleur qui ont rejoint l'armée pour fuir la pauvreté et l'emprisonnement. Et maintenant, ils se retrouvent forcés de combattre cette guerre bizarre contre le terrorisme.
Voilà, une guerre bizarre contre le terrorisme. Angela Davis, c'était un discours il y a une dizaine d'années à l'université de Floride. D'ailleurs, ce complexe carcéro-industriel, elle en avait parlé dans son ouvrage « La prison est-elle obsolète ?», un ouvrage qui a une dizaine d'années, 2003. Votre regard, James Cohen, sur cette idée justement d'un complexe carcéro-industriel qui, d'une certaine manière, favoriserait la philosophie de l'enfermement, de l'incarcération pour faire des bénéfices.
Écoutez, je crois que Angela Davis l'a très bien dit, et elle étudie le phénomène depuis une dizaine d'années, et l'ouvrage en question est vraiment une très bonne synthèse de la question qui n'a pas perdu de son actualité. Le secteur qu'on regarde plus précisément ce matin, les prisons privées font partie de ce complexe et on voit très bien à travers un jeu d'acteurs, il y a toute une catégorie d'acteurs que vous avez commencé à nommer, il y a des entrepreneurs, il y a des financiers, des hedge funds, des fonds de spéculation qui les alimentent, il y a les législateurs complices et qui reçoivent des petites aides financières elles-mêmes. Bref, il y a tout un système de collusion qui fait que ce secteur est devenu un marché. C'est vraiment le...
Vous parlez de législateur complice. Je crois que la formule, l'expression n'est pas du tout exagérée. On va retrouver Nathalie Berger avec nous depuis Genève. Bonjour Nathalie Berger.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, je rappelle, vous êtes coordinatrice États-Unis pour Amnesty International France, une spécialiste du système carcéral. Avant justement d'en venir à cette complicité avec le législateur dont on parlait à l'instant, juste un petit point d'histoire. On disait avec James Cohen qu'effectivement, ces prisons, elles ont privé, elles ont explosé dans les années 80. Mais en réalité, aux États-Unis, on en trouvait déjà bien avant cela, bien avant les années 80.
Oui, tout à fait. Les prisons, le système des prisons privées existe en particulier après la guerre civile, où il fallait remplacer les esclaves à la fois dans les champs pour la construction des routes. Donc, on a commencé à avoir l'idée de ce système de privatisation pour pouvoir exploiter les prisonniers et en faire des ouvriers à bas coût. La toute première prison privée construite en l'État a existé en 1852 à Saint-Quentin, en Californie, qui a très vite été repris par l'État de Californie du fait des exactions qui étaient commises à l'intérieur de cette prison. Et bien que le système s'est partiellement développé à cette période-là, il a été complètement arrêté au début du XXe siècle à la suite d'un décès d'un prisonnier dans une prison d'Alabama qui avait été torturé, plongé dans l'eau bouillante et qui avait profondément choqué l'opinion publique. Et effectivement, c'est qu'une... À partir des années 80, on les voit réapparaître vraiment.
D'accord, donc on abandonne le système au début des années du 20e siècle et puis on le reprend dans les années 80. Sur cette complicité justement du législateur, il paraît que lorsque... Alors là, moi j'étais absolument effaré d'apprendre ça, je l'ignorais totalement. Quand une entreprise privée passe un contrat de gestion avec un État, les autorités locales s'engagent à envoyer suffisamment de personnes pour atteindre des certains taux de remplissage, notamment souvent dans les contrats, c'est stipulé entre 80% et 100% de remplissage. Le rapport de force, si c'est le cas, est totalement renversé. Ce n'est plus au fond le droit qui conduit la justice pénale, mais c'est la prison qui dicte d'une certaine manière cette justice.
Tout à fait, c'est la prison qui va dicter la justice.
Vous confirmez sur ces contrats-là que je
viens de lever ? Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Mmh. On a de multiples informations dessus. Alors, pas tant Amnesty International particulièrement, mais on travaille avec beaucoup d'autres organisations, donc, dont l'Association des droits civils américains, la CLU, qui intente des plaintes devant les cours de justice pour effectivement essayer de faire en sorte que ce système ait un petit peu plus de transparence. Et ces contrats existent. C'est une société privée, elle a besoin d'une rentabilité, elles sont cotées en bourse, ces sociétés. Hein.
James Cohen, il y a quelque chose qui est frappant. C'est aux États-Unis, on sait qu'il y a beaucoup de prisons aussi qui permettent aux détenus de travailler. C'est le cas par exemple à Angola, qui est la plus grande prison des États-Unis, en tout cas du point de vue de sa population. Je crois qu'il y a plus de 5000 détenus. Elle est dans l'État de Louisiane. Le pénitencier tourne autour d'une énorme exploitation agricole. On fait du coton, on fait du maïs, on fait du soja, on fait du blé, etc. etc. Donc les prisonniers travaillent dans les champs, ramassent le fruit de leur labeur qui sera ensuite vendu et les gains permettent d'assurer une partie, en tout cas du financement de la prison. Les détenus, eux, peuvent gagner quelques centimes de dollars par heure. Alors, c'est pas du tout une exception. Hein. Par exemple, la Colorado Correctional Industry, qui est l'administration carcérale du Colorado, où il y a énormément de prisons, propose des dizaines de produits à la vente. Ça va du raisin au miel, en passant par les poissons d'élevage, le fromage bio. Et le chiffre d'affaires annuel, il est de 65 millions de dollars. C'est-à-dire qu'on voit que, au fond, c'est le système capitaliste dans toute son ampleur. C'est la recherche de la productivité poussée à son paroxysme.
Oui, tout à fait. Alors, je vois ça avec un petit peu avec les lunettes du politiste, pour le coup. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des formes de législation qui sont conçues par un conseil un peu occulte de législateurs et qui a un nom, qui s'appelle ALEC, on en parlera peut-être,
et qui
calque un même type de législation sur plusieurs États et qui rend possible, qui ouvre droit donc pour ces entreprises à l'exploitation du marché de main-d'œuvre. Enfin, il y a un type de loi qui s'appelle Prison Industrial Act, qui a été conçu, si mes souvenirs sont bons, au Texas au départ, mais qui a essaimé parce qu'il y a des organisations parfaitement organisées. C'est vraiment un travail de lobbying qui a des réseaux.
On va en parler de ce travail de lobbying. État, hein. Sur la question économique, Nathalie Berger, dans quelle mesure est-ce que le secteur privé est parvenu à réduire les coûts, justement, les coûts de fonctionnement des centres de détention? Est-ce qu'on peut comparer, disons, le prix d'une journée de détention pour un individu dans le système public et puis pour un individu dans le système privé?
Alors, le problème que disent un certain nombre d'associations, c'est que cette réduction des coûts est complètement biaisée parce que la plupart de ces entreprises privées de détention mettent des conditions pour accepter pas n'importe quel détenu, en particulier les détenus qui sont en mauvais état de santé. Ils ne les prennent pas. Enfin, ils essayent de ne pas les prendre. Donc, effectivement, quand on fait la comparaison, et il y a une étude qui s'est passée là relativement récemment, il me semble que c'est en Arizona où quand on refait le calcul en mettant l'état de santé des détenus à peu près à même niveau, on voit que la différence de coût entre la détention dans une prison de l'État et dans une prison privée, la différence est de 3 centimes d'économie, donc ce qui est complètement faux.
D'accord, mais donc on s'arrange, si j'ai bien compris, à prendre des profils de détenus qui ne coûtent pas cher, entre guillemets.
Tout à fait, ouais. Tout à fait.
Alors, la plus grosse entreprise américaine du secteur carcéral, c'est la Correction Corporation of America. Elle a été créée au début des années 80 sous Reagan. Aujourd'hui, c'est 60 complexes pénitentiaires à peu près dans une vingtaine d'États, 17 000 employés, 75 000 détenus. C'est une entreprise pionnière qui est devenue aujourd'hui le premier acteur du secteur, et vous le disiez, hein, coté en bourse.
Absolument.
C'est dire la puissance.
C'est une puissance inouïe, et comme toute société cotée en bourse, elle doit donner de l'argent à ses actionnaires.
Il paraît que l'entreprise est devenue particulièrement florissante après que George Bush eut déclaré la lutte contre le terrorisme.
Oui, c'est l'explosion de ces prisons privées a lieu d'une part après les lois Reagan au niveau de la drogue et effectivement après les lois de George Bush contre le terrorisme et en particulier au niveau de la criminalisation des détenus sans papier et des détentions illégales. Donc effectivement, Eric Holder a déclaré juste avant qui est l'ancien ministre de la Justice, juste avant de partir que l'augmentation était de 800% en l'espace de un peu plus de 20 ans.
James Cohen.
Il y a un autre tournant aussi, il y a un autre bond qualitatif qui se remarque autour des années 2005, 2006, 2007, 2006 disons, avec le bond du nombre des migrants expulsés par l'administration Bush, et il y a un vaste marché qui se développe autour de la détention de ces personnes en voie d'expulsion. En Arizona, c'est très visible. J'ai passé du temps dans cet état et c'est une industrie, si on peut dire, qui est très contestée localement, mais qui tourne.
Depuis quelques mois, Nathalie Berger, on a remarqué, et c'est vraiment la première fois depuis 3 décennies, je crois, que le nombre de prisonniers aux États-Unis a diminué, et ça pourrait, j'allais dire, s'empirer, je mets des guillemets évidemment, si Obama parvenait à faire passer sa réforme judiciaire visant à réduire justement le nombre de prisonniers, sans compter les décisions de libération de masse qui ont été prises. On sait que là, il y a eu une vague de libération de 6000 personnes d'un coup, c'était il y a quelques jours, c'était le 1er novembre dernier. J'allais dire, c'est une mauvaise nouvelle pour le business. Ça risque de faire fermer des prisons ? Nathalie Berger.
Ça m'étonnerait que ça fasse vraiment tout de suite fermer des prisons. Il reste encore beaucoup trop de détenus derrière les barreaux et les politiques de criminalisation sont encore beaucoup trop présentes. C'est effectivement c'est la première fois qu'on voit le chiffre, la courbe s'infléchir. Mais pour moi, c'est pas encore une très 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 bonne nouvelle. Le problème n'est pas tant la libération des prisonniers et la fermeture de ces prisons, c'est qu'il faut absolument que les droits humains soient respectés à l'intérieur de ces prisons.
On va en parler tout à l'heure, des droits humains, évidemment. Je voudrais qu'on évoque la question, justement, des lobbies. Louise Grant, qui est une représentante de la CCA, donc la Corrections Corporation of America, nie visiblement l'implication de sa société et plus globalement des acteurs pénitentiaires privés en général dans l'élaboration des lois sur les peines. Écoutez-la.
Le principal avantage du système privé pour l'État est qu'il n'a pas à investir un dollar de capital pour construire ses propres installations, ni à attendre 3 à 6 ans pour débloquer les fonds. D'ailleurs, nous n'avons jamais perdu un contrat en 25 ans d'existence de notre entreprise, même en raison de mauvaises performances. J'affirme ici sans équivoque qu'aucun fournisseur de services pénitentiaires n'a jamais été impliqué dans quoi que ce soit ayant à voir avec la loi sur les peines. Nous ne le ferons jamais. Ce n'est pas le rôle d'un prestataire carcéral dans ce pays.
Ce n'est pas le rôle d'un prestataire carcéral, nous dit Louise Grant, représentant donc cette entreprise du secteur privé, donc du secteur carcéral. En 2012, le prix Nobel d'économie Paul Krugman dénonçait justement l'influence des lobbyistes de la prison sur les politiques carcérales. Quelle est la réalité justement du poids de ces lobbyistes? Quels sont les moyens déployés pour défendre leurs intérêts, Nathalie Berger?
L'association des droits civiques américains dénonce dans un certain nombre de rapports, c'est un certain nombre de chiffres, 17,5 millions en 10 ans pour du lobbying auprès des sénateurs, en particulier une partie des sénateurs qui sont dans des comités qui contrôlent le département de sécurité intérieure, et ce que dit la CLU, une des cibles clés a été le gendre du vice-président Dick Cheney, qui a été nommé conseiller général pour le département de sécurité intérieure. Et comme par hasard, l'année d'après, la CCA avait enregistré des bénéfices les plus élevés de son histoire. La corruption n'est pas non plus le seul fait de cet organisme. D'autres compagnies existent, d'autres compagnies privées existent, qui sont certaines coupables d'avoir versé à 2 juges, par exemple, la somme de un peu plus de 2 millions de dollars.
Ah oui, alors là, c'est plus du lobbying, c'est carrément de la corruption.
Mais tout à fait. Ouais. C'est à la fois du lobbying et de la corruption dans certains dossiers.
Il y a un journal américain qui avait dévoilé que la CCA avait dépensé entre 2002 et 2006 près de 3 millions de dollars pour faire justement du lobbying auprès du Congrès. James Cohen.
Écoutez, quel propos exactement ?
Sur cette question du lobbying et de l'influence de ces entreprises privées sur le Congrès notamment.
Sur le Congrès, alors je pense que sur le Congrès, il y a une influence réelle parce que ce conseil que j'évoquais tout à l'heure, qui s'appelle ALEC, le Conseil pour l'échange législatif américain, ALEC, le nom paraît très innocent, mais en fait, il y a un regroupement de législateurs. Je ne saurais dire combien, peut-être que d'autres le savent, mais ils sont très efficace dans la fabrication de lois qui favorisent, comme on le disait tout à l'heure, qui ouvrent le droit, qui balisent le secteur et qui permettent à ces entreprises de fonctionner sans beaucoup de régulation.
Vous avez des illustrations de lois qui ont été prises justement pour favoriser le système carcéral privé ?
Écoutez, ce que je vois surtout, c'est un manque de réglementation. Ce que je vois surtout, c'est qu'il y a tous les abus possibles, ce qui est très visible quand on voit ça un peu sur place, dans un endroit comme Eloy, en Arizona, c'est que les abus sont nombreux, mais les entreprises échappent aux conséquences de cela parce que la législation est faite de manière à les épargner de toute poursuite. Je commence à voir que dans un État comme le Texas y compris, on commence à demander un peu plus de... Comment dire, un peu plus de responsabilité, un peu plus d'ouverture des comptes, un peu plus de transparence. Mais quant à une réglementation réelle qui ferait qu'on limiterait les abus, les suicides, la mauvaise nourriture et tout cela, apparemment, leur jeu consiste à diminuer les coûts, quelles que soient les conséquences humaines.
Nathalie Berger, vous avez des éléments justement sur des décisions qui auraient été rendues, des textes qui auraient été pris en faveur justement des acteurs privés du secteur ? Nathalie Berger ?
Non, pas.
On dit par exemple que les lois sur la seconde récidive, les street strike laws, les lobbyistes du secteur pénitentiaire ont bien travaillé pour que justement émerge cette fameuse loi. Il y a aussi un autre texte qui prévoit que les peines infligées soient incompressibles et que les peines soient quasiment impossibles. Semble-t-il, en tout cas, je dis ça par rapport à ce que j'ai lu hier sur ce sujet-là, qu'il y aurait eu une influence réelle par rapport à ces textes-là. J'aime quand même vous lever le doigt.
Oui, à l'échelon d'un État, l'Arizona, encore une fois, il y a un exemple énorme, la très célèbre, tristement célèbre loi SB 1070, qui autorise et oblige les polices de l'État d'Arizona à faire des contrôles d'identité et à en tirer des conséquences sur le statut migratoire des personnes ainsi contrôlée, enfin, c'est une autre manière de fabriquer de potentiels détenus et cette loi a été votée. Disons que la loi a été conçue entre un sénateur de l'État d'Arizona et le célèbre Alec qui fournit le modèle.
Nathalie Berger, encore un mot avant d'évoquer justement les conditions de détention dans ce système privé. Nathalie Berger.
Oui. Non, je pense que de toute façon, ce qui est certain, c'est que de toute façon, toutes les lois qui vont aller dans le sens d'une incarcération plus longue, d'une facilité d'incarcération, il paraît à peu près évident que les lobbyistes des compagnies privées sont très influentes pour faire prendre ces décisions.
Alors, mai 2012, une importante émeute à Natchez, Mississippi, dans l'Adams County Correctional Facility, une prison gérée justement par cet opérateur dont on parlait, CCA Corrections Corporation of America. Retour donc en mai 2012.
Nous avons reçu plusieurs appels de détenus qui se plaignaient. Vous avez probablement entendu parler d'abus de pouvoir dans cette prison et aussi de la surpopulation. Et nous avons contacté l'établissement pour savoir ce qui se passait, mais personne ne nous a jamais répondu.
En fait, c'est la deuxième fois ce soir que la compagnie privée CCA a perdu un de ses employés lors d'une agression par un détenu.
Voilà, Nathalie Berger, il semblerait, en tout cas c'est ce que disent un certain nombre de rapports, que la violence en général, que les agressions de la part des gardiens, mais aussi entre des co-détenus, augmentent lorsqu'on a affaire à des prisons privées. Est-ce que c'est vraiment le cas ? On dit par exemple que le nombre d'agressions dans les prisons privées serait 3 fois supérieur au reste du paysage carcéral.
C'est effectivement ce qui est dit dans un certain nombre de rapports, mais pour bien illustrer cette violence qui existe dans ces prisons privées, je voudrais citer le dossier de la CLU qui s'est porté partie civile en Idaho pour une prison qui a été surnommée par les détenus eux-mêmes l'école des gladiateurs. Donc je crois que ça veut bien dire ce que ça veut dire, où dans cette prison, il y a une violence qui est extrême, des abus sexuels qui sont permanents, une insuffisance de sécurité, une insuffisance des gardes, gardes. Les gardes qui sont, d'après ce que dit ce rapport et d'après ce que dit la plainte auprès de la Cour fédérale, les gardes exploiteraient les rivalités entre les gangs à l'intérieur de la prison, provoqueraient des émeutes, provoqueraient des bagarres, comme c'est un espèce de système de management pour essayer de faire descendre la violence. Mmh. Et dans ce dossier, 4800 heures ont été payées par l'État d'Idaho à la compagnie privée CCA, alors que c'est 4800 heures de garde qui n'ont pas été réellement effectuées. Donc elles ont été payées, le travail n'a pas été effectué. Mmh. Et il y a effectivement un turnover, si vous voulez, qui est très important au niveau de ces gardes. Les conditions d'exercice de la profession sont dramatiques. Ce sont souvent des gamins qui sont mal formés. La moyenne d'âge, dit la CLU, est de 24 ans. Donc on est vraiment dans un état de violence extrême dans ces prisons privées.
D'accord. Donc le profil des gardiens de prison privée et donc évidemment leur compétence, il est très différent de ce qu'on retrouve dans les établissements publics. C'est ce que vous nous dites.
Il semblerait effectivement que ça soit très très différent et entre autres les gardes qui exercent dans les prisons privées n'ont pas le droit d'être syndiqués au syndicat on va dire national, enfin fédéral des gardiens de prison et bien évidemment la CCA fait tout ce qu'ils peuvent pour ne pas embaucher des gens qui pourraient être syndiqués et qui pourraient effectivement pouvoir faire valoir leurs droits et faire améliorer les conditions de sécurité à l'intérieur de la prison.
Mmh. James Cohen.
Je voulais juste ajouter à cela une illustration, enfin un exemple assez éloquent. Le gouverneur actuel de l'État d'Arizona, M. Ducey, qui est un très ferme partisan de ce type de système d'incarcération privée, a quand même été conduit à fermer une prison qui a explosé en émeute dans la ville de Kingman cette année, au mois de juillet, parce que il a reconnu l'incompétence des agents. Mmh, mmh. Ça arrive. C'est un secteur que même les partisans n'arrivent pas à contrôler complètement.
Mmh. Il y avait une affaire terrible, Nathalie Berger, il y a quelques années, en 2012, au cours de laquelle un jeune détenu de 24 ans, Annie Elebd, s'était fait littéralement tabasser sous les yeux des gardiens qui étaient restés totalement immobiles. Son agresseur avait même pris le temps de faire une pause sur une chaise pour reprendre son souffle avant de se remettre à battre sa victime. Finalement, les gardiens étaient intervenus pour tout simplement ramasser l'agressé et l'emmener aux soins. C'est une affaire qui avait fait beaucoup de polémiques aux États-Unis, qui avait eu peut-être la vertu quand même de pointer du doigt justement les conditions de violence particulières dans ces établissements privés. Est-ce qu'il y a eu des évolutions depuis ? Est-ce qu'il y a des améliorations ?
Malheureusement, j'ai pas l'impression. Quand on regarde le rapport de la LAO et de la plainte qui a été déposée par la CLU, on a l'impression que ça ne change pas. Même si là, aujourd'hui, en Idaho, l'État d'Idaho a rompu son contrat avec la CCA, a demandé une enquête impartiale par le FBI. Mais malheureusement, je pense que les conditions de détention sont toujours aussi dramatiques.
Mmh. Mais pourtant, on imagine quand même, Nathalie Berger, que les réglementations, les contrôles auxquels sont soumis ces établissements privés, c'est les mêmes que pour les prisons publiques.
Alors, c'est pas tout à fait les mêmes que pour les prisons publiques. Les prisons privées, d'autres prisons également, sont soumis effectivement à une accréditation par un organisme qui rassemble des juristes, qui est l'American Correctional Association, la CA, qui va effectivement donner une accréditation en fonction de ses propres standards pour 3 ans. Or, le problème de cette association, c'est que elle est payée par les prisons pour donner les accréditations. On estime entre 8 000 à 20 000 dollars le paiement d'une accréditation. Elle examine uniquement sur dossier, elle ne va pas sur place. Mmh, mmh. Donc en fait, c'est un petit peu le diable qui se mord la queue. Donc l'accréditation de ces prisons privées est donnée par une association qui théoriquement est indépendante, mais qui est payée par la prison. Donc on voit bien.
Mmh. James Cohen.
Oui, on peut ajouter à ça tout un système d'études, parce que chaque fois que ces entreprises ont besoin de se couvrir avec des rapports favorables, ils ont aussi des entreprises complices qui leur fabriquent de très bons rapports.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde cette semaine dans l'univers carcéral prison quand les murs tremblent, c'est notre sujet cette semaine dans Culture Monde et aujourd'hui en particulier vers un complexe carcéro-industriel. Alors on parlait des États-Unis, comme aux États-Unis, la Suisse, la Suisse, pays fédéral, dans lequel eh bien, les cantons disposent d'une certaine autonomie dans le domaine pénitentiaire. On va retrouver justement Benjamin Bréguer. Bonjour Benjamin Bréguer.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en direct depuis Berne, vous êtes un spécialiste du droit de l'exécution des peines et vous êtes un spécialiste, j'allais dire, du système pénitentiaire suisse en général, en tout cas un observateur depuis de longues années. Hein. Vous avez notamment été directeur adjoint de la plus grande prison ouverte du pays. Depuis 2001 en Suisse, il y a un programme qui s'appelle Jail Train System, qui a pour but de privatiser le transport de prisonniers entre cantons. Donc depuis une quinzaine d'années, on a ces activités qui ne cessent d'augmenter. En 2012, par exemple, c'est une activité qui a rapporté 7,3 millions de francs aux agences de sécurité privée. Sauf que ce que d'aucuns dénoncent, c'est l'absence totale de cadre juridique formel pour encadrer cette activité, Benjamin Bréguer.
Oui, c'est pas 100% juste, mais dans
alors, corrigez ce qu'il faut corriger. Alors, corrigeons.
Oui. Nous avons en Suisse, comme vous avez dit, les compétences pour le domaine d'enfermement dans les cantons, et il y a une petite compétence sur le niveau fédéral. Alors en ce qui concerne les prévenus ou les personnes condamnées par une instance fédérale, là il y a une base légale pour pouvoir faire transporter ces détenus par une entreprise privée. Mais pour la plus grande partie, je dirais presque le 90% des détenus, ce sont des détenus cantonaux, là il manque une loi formelle qui délègue cette tâche régalienne de transporter des détenus condamnés ou des prévenus par des agents privés. Et je trouve dommage cela.
Ça veut dire concrètement qu'on a des agents de sécurité privée qui gèrent le transport de prisonniers. Donc ils n'ont pas de droits spécifiques, de moyens pour faire leur activité. Est-ce que, par exemple, ils ont le droit de porter des armes? Est-ce que, par exemple, si ils font face à une évasion, une tentative d'évasion, une opération d'exfiltration d'un détenu lors de son transport, comment est-ce qu'ils peuvent y répondre?
Alors, ce sont des agents privés. Ils ne sont pas armés avec une arme à feu. Je suis très content pour cela, car ils ne sont pas des agents étatiques à surmonter. Par contre, ils portent des menottes. Ils peuvent menotter des personnes détenues durant le transport. Ils peuvent les enfermer dans des cages, soit dans des bus ou dans des wagons de chemin de fer. Et ils sont aussi équipés d'un spray à poivre. Vous voyez, ce sont quand même des moyens de contrainte en cas d'agression. Ça, c'est déjà assez délicat. Comme j'ai dit, pour les détenus qui dépendent de la Confédération, là, c'est vraiment dans une loi formelle réglée qu'ils sont autorisés à appliquer ces moyens de contrainte, mais par contre, pas pour les détenus des cantons. Mais ça se fait, c'est assez courant, c'est une pratique de longues années qui n'a jamais été formellement critiquée.
Et ce que vous dites, Benjamin Bréguer, c'est que c'est une pratique qui, en réalité, n'est pas véritablement un choix. C'est-à-dire que les centres pénitentiaires, par manque de moyens humains criants, sont obligés de faire appel à du personnel extérieur et donc de faire appel à du privé.
Vous parlez maintenant du transport ou en général ?
Du transport en particulier.
Du transport, oui. Alors, en ce qui concerne les transports dans les périmètres des différents cantons, c'est chaque canton qui s'est organisé. La majorité des cantons fait exercer ces transports soit par la police cantonale, c'est-à-dire par les agents étatiques, ou soit par des convoyeurs, des personnes aussi sous contrat étatique et bien formées. Par contre, en ce qui concerne le transport intercantonal d'un canton à l'autre, là nous n'avons pas de système étatique, c'est juste comme vous venez de dire, ça a été délégué par un contrat de droit privé à cette association privée. Ça, c'est quand même un peu boiteux, je dirais, du point de vue juridique.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'en Suisse, comme aux États-Unis, on pourrait voir émerger des entreprises qui assureraient la gestion complète d'un établissement pénitentiaire? Est-ce que vous avez le sentiment que la Suisse glisse doucement vers ce modèle?
Il y a toujours des questions qui sont posées, il y a aussi toujours un certain intérêt par le domaine politique, par les politiciens, mais heureusement, notre code pénal, qui est une loi fédérale, qui est applicable pour tous les cantons de Suisse, interdit formellement que les établissements de détention soient privatisés. Et je suis très très content de cette base légale, car c'est vraiment une tâche régalienne. L'enfermement, c'est vraiment la contrainte directe vers des citoyens. Ça doit rester dans les mains de l'État. de l'état de droit.
Réaction, James Cohen, ici avec nous en plateau, et puis ensuite Nathalie Berger. James Cohen.
Écoutez, je ne saurais mieux dire. Je pense que l'essentiel vient d'être dit, parce que quand on parle de cette lente, enfin, le mot n'a pas été dit, mais on parle d'une voix parmi les voix mystérieuses du néolibéralisme qui avance, et si on peut décider quand même pour une fois qu'il y a des secteurs qui restent régaliens, ou en tout cas des secteurs devant lesquels l'État doit être responsable devant les citoyens à travers le droit. Bon, c'est un exemple. Personnellement, je ne trouve pas de plus pervers que la privatisation des prisons.
Nathalie Berger, on voit avec cet exemple suisse que finalement, la privatisation du système carcéral n'est pas l'apanage des États-Unis. C'est un modèle qui se diffuse, et y compris en Europe.
Oui, tout à fait. Ça a été diffusé. Les lois Chalandon en 87 en France ont ouvert effectivement la privatisation alors de certains services. On n'en est pas effectivement à un système comme aux États-Unis. Mais je voudrais quand même insister. Là, on parle des prisons privées et bien sûr, on les dénonce. Amnesty International, entre autres aux États-Unis, travaille beaucoup sur les prisons, y compris les prisons d'État et en particulier les prisons qu'on appelle les supermax, qui sont les prisons de très haute sécurité dans lesquelles les détenus sont confinés, sont en réclusion. C'est des prisons qui sont là sous contrôle de l'État et sous contrôle de l'État fédéral, qui ont servi de modèle à la construction de la prison de Guantanamo. Donc tout n'est pas rose dans les prisons d'État.
Oui, et servi de modèle pas seulement du côté des États-Unis, c'est-à-dire effectivement ce modèle de supermax, de prison de haute sécurité, c'est un modèle économique aussi que les États-Unis exportent. C'est-à-dire qu'on vend carrément à l'étranger des solutions carcérales, des packs avec notamment des financements qui sont compris, etc., etc. Donc là aussi, c'est un objet d'exportation, ce modèle-là, qui est un modèle américain à la base, Nathalie Berger.
Oui, tout à fait. Je pense que les supermax sont effectivement parmi, en tout cas, peut-être pas uniques aux États-Unis, mais sont effectivement parmi les modèles américains, oui.
Merci beaucoup, en tout cas, Benjamin Bréguer, d'avoir été avec nous en direct depuis Berne. On va poursuivre un petit peu sur les États-Unis avant d'aller à nouveau du côté de l'Europe, du côté des Pays-Bas, tout à l'heure avec Laurent Chambon, qui va encore patienter quelques instants. Alors, ce que j'ai remarqué, James Cohen, et là je me tourne vers vous, vers le professeur de civilisation américaine qui observe aussi la vie politique des États-Unis et notamment, bien sûr, qui regarde ce qui se passe au niveau de la campagne. Parce que, visiblement, la prison est aussi un thème de campagne. Écoutez, c'était Bernie Sanders, qui est donc l'un des candidats à l'investiture démocrate, dans un discours, c'était en mai dernier à Portsmouth. Écoutez.
One of the crises that we face in our nation.
Un problème auquel nous faisons face, c'est que nous avons plus de gens derrière les barreaux que tout autre pays au monde. Nous avons plus de prisonniers qu'en Chine. Et ce que nous voudrions dans nos prisons, c'est promouvoir une bonne éducation. Mais nous éduquons les gens à devenir de meilleurs criminels. Donc il me semble qu'au lieu de mettre d'énormes sommes d'argent dans les prisons et sur ces sociétés privées qui ont pour conseil de garder les gens en prison, nous pourrions faire beaucoup plus en dépensant cet argent dans la formation professionnelle et l'éducation avant que ces personnes n'aillent en prison.
Voilà, Bernie Sanders qui se dit que peut-être qu'il faudrait dépenser l'argent autrement, moins dans le système carcéral américain et plus dans l'éducation. Parce que je crois d'ailleurs qu'il faut rappeler qu'aux États-Unis, on dépense plus pour les prisons que pour l'éducation, bien plus. James Cohen, dans quelle mesure est-ce que cette question de la politique carcérale en général, c'est un thème de campagne? Et comment est-ce que les uns et les autres se positionnent là-dedans, à la fois du côté des démocrates et à la fois aussi peut-être du côté des républicains? Est-ce que par exemple, Donald Trump, Ben Carson, Jeb Bush sont très favorables à la politique carcérale ultra-répressive et donc par conséquent défendent d'une certaine manière les intérêts des entreprises privées du secteur?
Je pense que si cette question est devenue une question de la campagne présidentielle naissante, c'est grâce à Bernie Sanders qui l'évoque directement et grâce aussi à des mouvements comme Black Lives Matter qui dénoncent les brutalités policières mais qui enchaînent aussi sur le système carcéral parce que tout ça va de pair, comme l'a montré depuis longtemps Angela Davis et d'autres. Je pense que si d'autres candidats n'auraient pas évoqué si spontanément cette question parce qu'ils préfèrent plutôt cacher discrètement le système d'intérêt qui les alimente. Je pense notamment au sénateur Marco Rubio de la Floride, qui est très proche, on le sait, du groupe GEO, qui a son siège à Boca Raton, près de Miami. J'ai des informations moins précises, mais qui semblent suggérer que Hillary Clinton, en dépit de ce qu'elle a pu déclarer ces dernières semaines sur la nécessité d'une réforme des prisons et des peines, elle a même évoqué tout un programme là-dessus qui paraît convaincant, mais on voit qu'elle est aussi, elle reçoit une partie de ses fonds par des lobbyistes qui travaillent avec les entreprises en question.
Oui, c'est d'ailleurs le mouvement citoyen Black Lives Matter qui l'a interrogé, critiqué sur ses liens effectivement avec certains lobbyistes. Alors elle a appelé évidemment à rompre avec ses financeurs controversés. Elle y a été un petit peu contrainte. Réaction, Nathalie Berger, sur effectivement ce thème de la prison dans la campagne?
Il faut espérer effectivement que ce thème puisse arriver dans la campagne et qu'il puisse y avoir un véritable débat.
Vous y croyez ?
Moyennement, mais je ne ferai pas partie d'Amnesty International depuis plus de 30 ans si je ne croyais pas qu'on pourrait avancer en particulier dans ce domaine. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que un certain nombre d'États aujourd'hui ne veulent plus avoir de contrat avec des prisons privées et reprennent la notion effectivement régalienne, comme était dit par notre interlocuteur suisse. Donc je pense qu'il y a quand même une sensibilisation qui existe et qu'on est en train d'avancer vers le bon chemin.
Mais ce qu'on voit, James Cohen, en tout cas, c'est que les liens entre, donc, disons, le complexe carcéro-industriel, pour reprendre la formule d'Angela Davis, ils existent à la fois du côté des Républicains, où nous parliez du sénateur Rubio, et également du côté des Démocrates, où nous parliez d'Hillary Clinton.
Oui, ben, je pense que c'est un phénomène qui est plus... Les acteurs en question sont beaucoup plus à l'aise en présence de leurs amis républicains qu'en présence des démocrates en général, mais il y a des démocrates potentiellement complices et un secteur comme ça, des entreprises comme Géo, a tout intérêt à, pour ainsi dire, arroser les candidats des deux côtés pour au cas où. C'est-à-dire que ce n'est pas très surprenant que Géo essaye d'alimenter plus que modestement la campagne de Hillary Clinton, et que les mêmes acteurs sont présents dans les lobbies et dans sa campagne. Mais ce qui est plus surprenant, c'est qu'elle accepte cela. Et il faudrait peut-être qu'elle soit rappelée à l'ordre là-dessus. Je le dis en tant que citoyen. J'y vote.
Alors, on va revenir du côté justement de l'Europe, parce que face à l'engorgement des prisons, il y a certains pays européens qui externalisent la détention de leurs prisonniers. Et pour ce faire, on se tourne notamment vers les Pays-Bas. C'est le cas par exemple de la Belgique.
Maintenant, on a eu un problème d'une surpopulation dans notre prison depuis des années 80 et ça prend du temps pour résoudre le problème. Mais on voit vraiment que c'est ici une prison très propre, très claire, très nette, avec aussi une autre manière de travailler avec les détenus.
Le bilan de notre collaboration ces deux dernières années est positif. Pour nous, l'avantage est de créer de l'emploi pour les Néerlandais. Nous nous réjouissons que le contrat se prolonge jusqu'à fin 2013. Nous n'avons pas eu de problème majeur en 2010 et 2011.
On est en train de faire la construction des nouvelles prisons dans notre pays, mais elles ne sont pas prêtes. Et ça, c'est la raison pour laquelle on a fait la prolongation pour une année.
C'est une somme importante, mais si on fait la différence avec le montant dans notre pays pour une prison, c'est parfaitement raisonnable de louer une prison à Tilburg.
Voilà, donc Annemie Turtelboom, ancienne ministre de la Justice belge, qui en 2013 annonçait donc le transfert de prisonniers à nouveau du côté du Pays-Bas. Et puis il y a d'autres pays qui ont suivi ce chemin depuis. Bonjour Laurent Chambon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, professeur de sciences politiques à Amsterdam. En effet, je disais d'autres pays. Il y a par exemple la Norvège qui a récemment mis en place un accord de coopération carcérale avec les Pays-Bas qui permet de transférer ces condamnés dans des cellules néerlandaises. C'est le cas par exemple de la prison de Norgerhaven qui, depuis septembre dernier, est officiellement, j'allais dire quasiment aux mains des Norvégiens. En Europe, il y a de nombreux pays qui sont dans des situations évidemment de surpopulation. On a un rapport du Conseil de l'Europe de mai 2013 qui nous dit que la moitié des pays européens sont en situation de surpopulation carcérale. La France, évidemment, est particulièrement concernée. Comment se fait-il que les Pays-Bas fassent exception et qu'il y ait tant de places libres encore dans ces prisons, Laurent Chambon ?
Alors, ça paraît bizarre, mais on a un système de justice qui est en fait assez sévère. Il y a eu des comparaisons et les juges néerlandais sont vraiment du côté des juges les plus sévères d'Europe quand on va dans les punitions. Mais on a une baisse historique de la violence et de la criminalité qui a commencé il y a plusieurs siècles, mais qui est vraiment à un point très très bas. Et en fait, on n'a pas assez de gens à mettre en prison, c'est aussi simple que ça. La violence est tellement basse. Il n'y a personne à mettre en prison.
Mais si je vous disais,
il y a beaucoup moins de gens à mettre en prison.
Si je vous disais, Laurent Chambon, que si les prisons néerlandaises sont vides, c'est parce que la justice est terriblement laxiste.
Non, pas du tout, justement, c'est ce que je vous dis. La justice néerlandaise est parmi une des plus dures en Europe occidentale, avec des peines en fait assez lourdes. Et justement, ça montre à quel point justement la criminalité et la violence sont en baisse énorme, surtout ces 2-3 dernières années. C'est que même avec des juges sévères, on n'arrive pas à remplir les prisons. Mmh. Il y a quelque chose, un indicateur assez intéressant, c'est les populations qui sont les plus à même de commettre des crimes. Alors, aux Pays-Bas, c'est les Antillais et les Marocains. Et bien, même chez eux, on assiste à une baisse spectaculaire de la violence. Donc ce mouvement de baisse de la violence en général qu'on observe dans toutes les populations, on commence même à l'observer parmi les populations qui en général sont les plus condamnées. Mmh. Donc c'est vraiment une lame de fond sociologique qui est vraiment en train de se réaliser.
Mmh. Comment est-ce que l'opinion néerlandaise réagit à l'idée justement d'accueillir des malfaiteurs venus de l'étranger ?
En fait, c'est pas vraiment un sujet de débat, c'est plus un sujet d'amusement. Parce qu'en fait, les discussions qu'on a surtout en ce moment, c'est les situations sur l'économie, qui va moyennement, le fait que, justement, les discussions sur est-ce que les Marocains sont vraiment moins criminels, dans quelle proportion, donc en fait, on est plutôt en train de discuter les détails de la baisse de la criminalité, mais le fait qu'on loue des prisons à des pays étrangers, ça, c'est pas tellement important. Il y a juste le fait que c'est rentable et il faut que le budget national soit équilibré et ça participe à l'équilibre, même si c'est vraiment tout petit, du budget national. En fait.
Alors tout le monde trouve pas ça amusant, hein, Laurent Chambon. Hein. Par exemple, les détenus qui sont transférés justement pour vider des prisons et permettre la location de cellules, eux, ils trouvent pas ça drôle du tout. Les familles d'ailleurs s'élèvent beaucoup contre ces transferts et leur droit à la proximité du lien de détention.
Oui, ben déjà, les prisons qui sont dans le centre d'Amsterdam sont en train d'être vidées parce que il y a une pression immobilière monstrueuse et c'est vrai qu'avec ces grands ensembles d'immeubles en plein milieu de la ville, il y a déjà les promoteurs qui se frottent les mains.
Ouais, il paraît que la vieille prison d'Amsterdam, qui est vraiment au cœur de la ville, elle est en train d'être vendue à des promoteurs immobiliers.
Oui,
et ça va être transformé en appartement.
70, avec 4 tours super moches près d'une grande gare, donc vraiment un endroit parfait. Et c'était la prison où tous les gens allaient, donc tous les gens qui sont d'Amsterdam qui vont en prison vont dans cette prison, donc c'est pratique pour les familles. Et là, ils vont aller vers d'autres prisons plus modernes et plus lointaines. Et cet endroit, la ville a demandé déjà, a fait un appel d'offres, qui a des supers idées pour faire un truc vraiment bien avec ces 4 tours immenses près d'une des plus grandes gares de la ville. Ouais, c'est vrai. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde n'est pas super content. On a l'extrême droite qui arrête pas de hurler au laxisme. Et pour eux, c'est du pain béni, parce que c'est une manière de dire, regardez, on punit pas assez les naissances étrangers, en particulier les Marocains, d'après eux, et les criminels, et on transforme les prisons en immeubles de luxe.
Mmh. Je vais faire réagir dans un instant James Cohen et Nathalie Berger, mais vous parliez d'économie. Vous disiez, aux Pays-Bas, on est très sensible à ces questions économiques, évidemment, d'autant plus que c'est encore la crise, hein. C'est de l'argent public, c'est de l'argent pardon qui tombe dans les caisses de l'État. Ces locations de cellules, ça rapporte de louer des prisons. Est-ce qu'on attend un bénéfice économique important?
Je pense pas que les Pays-Bas vont devenir un pays encore plus riche grâce aux prisons. C'est vraiment microscopique.
Alors pourquoi est-ce qu'on le fait?
Les petites rivières sont les océans, c'est évident.
Alors pourquoi est-ce qu'on le fait si ça rapporte pas tant que ça?
S'il y a des moyens de se faire de l'argent, il n'y a pas de raison de cracher dessus.
Il n'y a pas de petit profit.
Il ne faut pas oublier qu'il y a tout ce personnel on ne peut pas le mettre à la rue comme ça. Donc, si on peut continuer à leur offrir un emploi et lutter contre le chômage, autant en profiter. Mmh. Et ensuite, si ça évite...
C'est en tout cas le raisonnement qu'on tient du côté des responsables politiques. Hein.
Ah oui, non, mais on va maintenir l'emploi, on va maintenir l'économie. Il n'y a pas de raison de ne pas utiliser des infrastructures qui sont déjà construites et rentabilisées. Donc il n'y a pas besoin de construire une nouvelle prison, il n'y a pas besoin de les détruire. Si on les détruit, on les fait de façon profitable. Et en attendant, les infrastructures pénitentiaires qui existent, autant les utiliser. Au moins, ça ne nous coûte pas l'argent, même ça peut nous en rapporter.
Nathalie Berger, je voudrais vous entendre sur ce cas assez étonnant de location de cellules aux Pays-Bas. D'ailleurs, j'indique pour les auditeurs qu'il y a un article justement sur ce phénomène-là dans le Monde diplomatique du mois de novembre. Nathalie Berger.
Alors là, par contre, moi, j'ai vraiment très, très peu d'informations, mais je voudrais réinsister sur le fait que, à partir du moment où il y a de l'argent en jeu, il est bien évident que toutes les exactions sont possibles. Les prisons privées ont intérêt à fonctionner comme une entreprise n'importe laquelle. Elles ont besoin de faire des bénéfices.
James Cohen.
Écoutez, moi, en tant qu'Américain vivant en France et devenu Français et Européen, j'avais longtemps l'habitude de vanter les modèles les mérites d'un modèle social européen qui a un peu décliné ces dernières années. Mais quand j'entends dire aux Pays-Bas que les niveaux de violence chutent et qu'on a besoin de faire autre chose avec cet espace, ça m'attire l'attention. C'est intéressant.
Alors, il y a la baisse des niveaux de violence, Laurent Chambon, puis on pourrait peut-être finir avec ça. Mais il y a aussi une politique pénale très spécifique du côté du Pays-Bas. La justice a une approche un peu globale dans sa manière de condamner. On essaye de mettre tous les acteurs en liaison pour apporter la réponse carcérale et judiciaire la plus adaptée pour un condamné. C'est ce qu'on appelle la totale ANPAC. Je ne sais pas si je prononce correctement, mais vous pouvez nous expliquer ce que c'est, Laurent Chambon ?
D'une approche totale, c'est-à-dire la prison, c'est juste un élément. Et déjà, il y a beaucoup de spécialistes qui disent, en fait, à long terme, il faudrait supprimer les prisons parce que ça résout aucun problème. Mais il faut résoudre ces problèmes personnels et sociaux. Donc, les prisons sont pas tout seuls. On bosse avec la justice, la police, mais aussi avec les services sociaux, l'éducation, en particulier quand il s'agit de jeunes, parce que la plupart, en fait, des criminels sont souvent jeunes. Et donc, l'idée, c'est pas forcément de les ramener à l'école, mais les encourager à trouver un moyen de travailler et d'apprendre. Et en fait, cette technique marche vraiment très, très bien, surtout justement pour les jeunes d'origine marocaine criminelle, qui ont souvent des problèmes, en fait, psychiatriques. Donc, il y a une aide psychiatrique et puis après, il y a une aide sociale avec même des appartements de resocialisation, etc., pour leur permettre de trouver enfin leur place dans la société. Et en fait, ça marche vraiment beaucoup plus efficacement que toutes les peines de prison qu'on peut imaginer. Et c'est en train, effectivement, de porter ses fruits.
James Cohen, il faudrait que les États-Unis, peut-être, s'inspirent de ce modèle néerlandais.
Oui, bah écoutez, il y a
une fois,
je vois guère que Bernard Sanders, candidat déclaré socialiste, qui évoque l'Europe un peu vaguement dans ses discours, en nous encourageant notamment à voir le Danemark comme exemple des réalisations sociales possibles. Hillary Clinton l'a contredit là-dessus en disant « J'adore le Danemark, mais c'est pas nous ». Il y a encore du travail pour faire percer ces thèmes dans la discussion aux États-Unis, mais on y arrivera.
Nathalie Berger, le mot de la fin.
Alors, le mot de la fin serait pour appeler vos auditeurs à soutenir le mouvement d'Amnesty International, puisqu'on a mis l'accent cette année sur Albert Woodfox, un détenu noir américain dans cette fameuse prison d'Angola dont vous parliez au tout début, condamné pour un crime qu'il n'a pas commis, qui depuis 43 ans en réclusion cellulaire dans une toute petite cellule 23 heures sur 24, qui sont à peu près les mêmes cellules que celles de Guantanamo. Et nous allons relancer à nouveau une demande de libération d'Albert Woodfox, puisque les juges fédéraux ont à trois reprises annulé sa condamnation, et ça n'est qu'en mobilisant l'opinion publique internationale. Donc j'appelle vraiment vos auditeurs à venir nous rejoindre sur albertwoodfoxamnesty.fr pour nous aider à libérer Albert avant qu'il meure malheureusement en prison, puisque son état de santé est profondément dégradé après 43 ans d'isolement cellulaire.
Le message est passé, Nathalie Berger.
Merci à vous.
C'est moi qui vous remercie, Nathalie Berger. Je rappelle, coordinatrice États-Unis pour Amnesty International France en duplex depuis Genève. Je remercie d'ailleurs les techniciens qui ont permis cette liaison. Et puis James Cohen, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Professeur de civilisation américaine à l'Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. De prison, il en sera encore question aujourd'hui sur France Culture, notamment dans Planète Terre avec Sylvain Kahn. L'univers carcéral est-il en expansion ? Olivier Milot, Marie Morel et Jean-Luc Domenac seront ses invités. Ce sera tout à l'heure à 14h sur France Culture.